bonsoir et bienvenue dans cette émission. Les FRDC se sont redéployés ce mardi 12 mai dans la localité de Louvungi, en territoire d'Ouvira. C'est là après le retrait de la CM23. C'est depuis samedi 9 mai que les rebelles de la CM23 ont entamé un retrait progressif de certaines positions dans la plaine de la Ruzizi au sud Kivu. Des sources concordantes locales affirment que les mouvements de retrait s'est poursuivi jusqu'à dimanche 10 mai avec des déplacements des combattants vers Kamanyola en territoire de Walungu tout en emportant leur matériel militaire. Selon les autorités locales, les rebelles ont quitté plusieurs zones de la plaine de la Ruzizi et des moyens plateaux de l'Emera. Parmi les localités concernées par le retrait figurent Kabunambo, Sangue, Nyakabere 1 et 2, Mutaroule, Luberizi et Bouegera. Jean de Dieu Mabiswa, l'administrateur du territoire d'Ouvira, confirme les mouvements de retrait et les qualifie d'une pression diplomatique exercée sur les groupes rebelles dans le but de protéger la population locale et d'éviter tout risque lié à la présence d'éventuels engins explosifs. La société civile d'Ouvira appelle les habitants à éviter les sites autrefois occupés par les militaires. Comment jugez-vous ces retraits de la CM23 de certaines localités de la plaine de la Ruzizi au sud Kivu? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons en ligne Didier Kabi, il est ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement provincial du sud Kivu. Bonsoir monsieur le ministre Didier Kabi.
Bonsoir monsieur Guy Mati.
Et aussi en ligne docteur de José Kakisingi, il est coordinateur du Conseil national des forums des ONG humanitaires et de développement de la RDC, CONAFOD, en cible, une plateforme regroupant plus de 500 ONG nationales et étendue sur toute l'étendue du territoire national. Bonsoir, docteur De José Kakisingi.
Bonsoir, monsieur Guy Maté.
Et ici au studio, Henri Pacifique Mayala, il est coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Bonsoir Henri Pacifique Mayala.
Bonsoir monsieur Guy, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kapi.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à dec@radiokapi.net.
Nous l'avons dit, au sud Kivu, les FRDC se sont redéployés ce mardi dans la localité de Louvungi, à territoire d'Ouvira. Cela intervient après le retrait sans combat de cette entité par les éléments de l'AFC-M23. La veille, l'armée s'était également redéployée dans plusieurs localités abandonnées par la rébellion, le long de la route nationale numéro 5, notamment à Kabunambo, Sangue, Nyakabere, Mutaroule, Luberizi et Bouegera. Les FRDC dénoncent par ailleurs des actes de pillage à Sangue avant le retrait de l'AFC-M23. On écoute le lieutenant Rigen Mouikalonji, il est porte-parole des opérations Sokola 2 Sud des FRDC au sud Kivu. Il est au téléphone de Martial Papi Moukeba.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait leur entrée ce mardi 12 mai 2026 en début de l'après-midi dans l'agglomération de Louvungi. C'est juste après les retraits des troupes rwandaises et de l'air supplétif M23, Tuwaneo et Red Tabara qui occupaient jadis cette entité depuis plusieurs mois. Les habitants espèrent désormais un retour progressif de la sécurité et des activités bien sûr socio-économiques dans cette partie de la plaine de la Ruzizi. Ces retraits résultent non seulement des efforts militaires, mais également plus des efforts diplomatiques menés par les commandants suprêmes des FRDC et de la police nationale congolaise et son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, que plusieurs localités retrouvent progressivement les contrôles des forces loyalistes. Les rebelles du M23 avec leurs alliés Tuwaneo et Tabara ont, avant leur retrait, pillé, saccagé, vandalisé le bien de la population. Et nous avons reçu des plaintes de la population ici à Louvungi.
Didier Kabi, vous êtes ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu. Le M23 se retire de certaines entités, n'est-ce pas, du Sud Kivu. Est-ce la suite du processus qui a commencé il y a quelques mois lorsque les États-Unis avaient demandé à cette rébellion de se retirer, ou il s'agit plutôt d'un autre processus?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Alors, je voudrais d'abord dire que nous avons suivi avec une attention l'évolution de la
Monsieur le ministre, votre ligne n'est pas...
Monsieur le ministre, l'annonce...
Monsieur le ministre,
agressive de l'État.
Monsieur le ministre, Didier Kabi.
La FCM est soutenue par les Rwandais dans la plaine. Les localités ou les agglomérations de Ningo, Kabunambo.
Monsieur Didier Kabi, votre ligne n'est pas. Votre ligne s'est dégradée. Est-ce qu'il y a possibilité de bouger un peu? Et puis, je ne sais pas si vous avez activé le mode main libre. Si vous avez activé ça, essayez de désactiver. Parlez normalement. Allez-y, monsieur le ministre.
Vous m'entendez?
Oui, allez-y, ça va.
Merci beaucoup. Je disais tantôt que le gouvernement provincial a suivi hein, avec une attention spécifique aux conditions de la situation sécuritaire à la plaine de la Rhodésie depuis l'annonce de retrait progressif de l'élément de la FCM3 soutenu par le Rwanda dans la plaine et plus particulièrement dans les agglomérations de Kabunambo, Biriba, Louberizi, Moutaroule, Sangue et Bouirira. Et aujourd'hui, Lou.
Allô? Allô? Allô, monsieur le ministre?
Oui.
On a toujours du mal à vous écouter. En fait, je crois qu'il y a un problème avec les réseaux. On vous rappelle dans une minute. Hein, et on essaie de vous rappeler. Voilà. Donc, on va donner la parole à Docteur De José Kakisingi. Docteur De José Kakisingi, vous êtes coordonnateur du Conseil national des forums des ONG humanitaires de développement de la RDC Conafob dans sigle une plateforme qui regroupe plus de 500 ONG nationales étendues sur toute l'étendue du territoire national. Comment vous percevez ces retraits du M23 de certaines localités de la partie sud du Sud Kivu? Docteur Kakisingi? Allô, docteur, vous êtes là?
Oui, allô, je suis là.
Voilà, j'ai demandé comment vous, à la société civile, hein, comment vous percevez, n'est-ce pas, ces retraits du M23 de certaines localités de la partie sud du Sud Kivu?
Pour nous, d'abord, c'est un signe de normalisation de la situation de paix que nous estimons va continuer. Et on a suivi déjà la progression des retraits de certaines localités. Pour nous, c'est un signe positif. Et donc, nous accueillons ça avec beaucoup de soulagement, parce que c'est à la fois l'aspect de la guerre qui s'éloigne de ces communes, de ces localités là où il y avait les M23 et leurs partenaires de l'armée rwandaise. Et donc, toutes ces communautés-là vivaient dans la crainte. Et beaucoup de populations qui, de ces alentours avaient fui vers le Burundi et sont dans les camps des déplacés, les camps des réfugiés de Burundi. Et donc pour nous, c'est un signe très très positif que ces villages commencent à retrouver de la paix, à recouvrer de la paix. Et donc ça va donc favoriser le retour des réfugiés vers leur milieu pour qu'ils reprennent leur vie normale et qu'ils finalement ils essaient de repartir et de refaire leur vie.
Voilà. Partant de l'expérience vécue à Uvira lors du retrait de ces rebelles, qu'est-ce que vous, de la société civile, vous avez à conseiller aussi bien au gouvernement provincial qu'à la population pour que ces retraits, n'est-ce pas, puissent apporter effectivement un climat de paix dans toutes les entités qui viennent d'être libérées?
La première chose d'abord, c'est que nous disons à notre armée, à notre gouvernement, c'est qu'ils doivent savoir que leur rôle, c'est de protéger toutes les communautés. Aussi bien ceux qui étaient là sous l'occupation de M23 que ceux qui vont venir. Les civils ne sont pas des cibles, les civils sont des victimes. Et donc la première chose, c'est de les protéger, de les rassurer et de travailler pour qu'il y ait une cohésion sociale et qu'il y ait une paix réelle. Donc si après on commence à faire la chasse à l'homme, ça va créer en fait l'effet inverse à ce que la communauté voudrait voir. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de préparer les meilleures conditions pour le retour des réfugiés qui sont soit dans les villages plus éloignés, soit dans le pays voisin qui est le Burundi. Parce que tout le long de la rivière Ruzizi, il y a des réfugiés de part du côté burundais. Il y en a qui sont dans les familles d'accueil, il y en a qui sont dans les camps un peu plus loin, mais tout ce monde-là va être très pressé de rentrer chez eux pour pouvoir vivre normalement et récupérer leurs champs, leurs maisons, pouvoir envoyer leurs enfants à l'école et tout ça. Et donc, le gouvernement doit faire un très très bon travail pour préparer les milieux, préparer les sites et faire en sorte que ces gens ne se retrouvent qu'ils rentrent chez eux. Ils ne sont pas tracassés, ils ne sont pas soumis à des contrôles qui les mettent encore sous pression, parce que vous devez savoir qu'ils sont vraiment déprimés avec tout ce qu'ils ont vécu, beaucoup de traumatismes, et à un moment donné, il faut que le gouvernement soit prêt à leur donner les conditions nécessaires pour être détraumatisés et se réintégrer et continuer à vivre normalement.
Voilà, on apprend que ces rebelles ne se retirent pas sans casse. Hein. Il y a des cas de tueries, il y a même des cas de pillages. Ça a été même confirmé par rapport au pillage et par les commandants, n'est-ce pas, Sokola. Est-ce que vous confirmez ces incidents?
Jusqu'à présent, nous ne savons pas confirmer. On n'a pas encore de rapport de nos membres qui sont dans la zone pour pouvoir confirmer. Mais ce sont des choses qu'on a aussi entendues et suivies. Mais à l'instant, on ne sait pas confirmer que c'est réellement vrai ou pas. Parce que nous, on attend avoir des évidences. On attend avoir des rapports de nos membres qui sont sur les sites pour nous dire ce qu'ils ont vu réellement. Parce qu'il faut aussi éviter de propager les rumeurs, parce que ça peut enflammer la situation. Alors il faut suivre ce qu'on dit, il faut avoir vraiment les évidences avant de confirmer ou d'infirmer.
Merci. Ministre Didier Kabi, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, M. Guimati.
Voilà. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Que pensez-vous, n'est-ce pas, comment vous expliquez ces retraits de M23 de certaines localités de la partie sud du Sud-Kivu? Est-ce qu'il s'agit du processus qui avait commencé il y a déjà quelques mois lorsque les États-Unis avaient demandé à ces rebelles de se retirer d'Uvira, ou il s'agit d'un nouveau processus?
Non, je voudrais d'abord préciser que les États-Unis d'Amérique n'ont jamais demandé aux rebelles de la M23 de se retirer. Par contre, les États-Unis ont demandé au Rwanda de retirer les RDF, c'est-à-dire les forces de défense du Rwanda qui opèrent en République démocratique du Congo.
Voilà, est-ce que c'est le même processus ou bien c'est un nouveau processus?
Nous, les gouvernements provinciaux du Sud-Kivu, ayant suivi ces processus de retrait progressif dans les localités, comme je les ai tantôt ciblées, malgré qu'il y avait un problème de connexion, j'ai tantôt parlé de Kabunambo, Biriba, Luberizi, Mutarule, Sange, Bouedira et aujourd'hui Luvungi. J'ai montré que nous, les gouvernements provinciaux d'ici Kivu, nous avions pris acte de ces retraits. Il intervient, je dois le dire, dans un contexte d'intense pression diplomatique et militaire, voire populaire, parce que jusque-là, notre population a continué à manifester sa résistance face à cette agression. Et si vous voyez très bien ce qui s'est passé dans la plaine de la Ruzizi, il y a lieu de se poser plusieurs questions. Tout d'abord, nous, en tant que gouvernement, nous avons vraiment envoyé dans un premier temps sur terrain aujourd'hui. Il y a le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire qui a fait un déplacement sur terrain dans le cadre de l'itinérance à Sangé, a fait d'échanger avec la population, d'appeler la population à la cohésion nationale, à la cohabitation pacifique, et de constater tout ce qu'il y a eu comme dégâts rapportés juste après que ces rebelles soient retirés. Et comme vous aviez posé une question tout à l'heure par rapport aux dégâts, vous vous souviendrez que quand les rebelles ont quitté la ville d'Uvira, c'était le 18 janvier 2026, ils avaient voulu forcer certaines communautés à pouvoir quitter la ville d'Uvira et d'aller se cantonner à Kamanyola. Cette même situation a voulu être pratiquée aux populations qui constituent les ménages de la cité de Sangé. Et je vous informe d'ailleurs suite à une résistance observée dans la population, il y a le président des éleveurs de Luberizi qui a été fusillé sur les chats, M. Moudetwa Moudjagirwa,
juste pour avoir refusé que son cheptel ne peut pas quitter la plaine pour aller à Kamagnola. Voyez-vous? Et donc, les questions est entrée à des dégâts qui ont été commis par les rebelles avant de quitter la ville. Vous aurez un peu un rapport condensé par rapport à ça, mais les premiers éléments sont là.
Alors aujourd'hui, Monsieur le ministre, aujourd'hui, où sont les troupes de la rébellion? Elles sont à dans quelle localité aujourd'hui?
Les troupes de la rébellion ont quitté toutes les agglomérations que je venais de citer tantôt. Hier, ils étaient à Luvungi. Ils ont quitté Luvungi pour aller se cantonner juste après le pont de Kamagnola au niveau du monument. Là, nous sommes à Kamagnola dans les territoires de Walungu.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui est fait par le gouvernement provincial pour la restauration de l'autorité de l'État dans ces entités qui viennent d'être libérées par la rébellion? Est-ce que, bon, on apprend que les FRDC sont en train de se redéployer. Est-ce que les Wazalendo sont aussi là-bas? Et qui aujourd'hui sécurise ces entités entre les Wazalendo et les FRDC?
Tout d'abord, je voudrais informer l'opinion. C'est juste lorsqu'il a été annoncé le retrait de ces rebelles, le commandant de la 33e région militaire a donné une instruction ferme à tous nos volontaires pour la défense de la patrie de ne pas poser des actes allant dans la défense, de créer du chaos, carrément de créer du désordre dans les zones libérées. C'est comme ça qu'il leur a demandé de se cantonner au niveau de Runingu et de laisser les forces armées de la République démocratique du Congo contrôler toutes les zones qui venaient d'être libérées par les rebelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous avez vu même dans les réseaux sociaux, les forces armées de la République démocratique du Congo sont arrivées aujourd'hui à Luvungi, où les rebelles sont retirés la journée d'hier. Et de Luvungi, en rentrant vers Uvira, en passant par Bouidera, en allant vers Sangue, et en tout cas, les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont là dans le cadre du rétablissement urgent de l'autorité de l'État. Et pour preuve, aujourd'hui, le Conseil de sécurité restreint de la province, à la tête du vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, accompagné de quelques membres du gouvernement provincial, ont fait un déplacement au niveau des Sangue pour communier avec la population, pour remercier sérieusement le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour son engagement en constant en faveur du rétablissement de la paix, de l'autorité de l'État et de l'intégrité territoriale de notre pays, la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, en urgence, son Excellence Monsieur le gouverneur de province, qui est actuellement en mission à Kinshasa, a été à la télévision nationale pour appeler la population à la cohabitation pacifique, pour appeler beaucoup plus la population du site Kivu à s'abstenir de tout acte de vengeance, à des actes de stigmatisation ou de règlement des comptes, voire même les actes de vandalisme ou de représailles contre certaines catégories de citoyens en vécu sous occupation. Et d'ailleurs, comme ça a été le cas à Uvira, ville post-retrait, plusieurs compatriotes ont été contrés, soit sous menace, d'autres, on a constaté qu'il y avait un peu de la pression, de fournir certains services ou collaborer avec César au risque d'être fusillés. Alors, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, est intervenu en urgence avec un message de cohésion, un message d'apaisement, un message appelant toute la population de la ville d'Uvira, toute la population de la plaine d'Uvira, que le site Kivu est un. Le site Kivu est composé de plusieurs communautés, et plus particulièrement, la ville et territoire d'Uvira a plusieurs communautés qui sont appelées à vivre ensemble et qui ne doivent pas créer ou utiliser ou propager des messages allant dans le sens de déchirer les tissus sociaux de la communauté. Il a beaucoup plus insisté sur le fait que ces gens, ils ont toujours été de mauvaise foi à chaque fois qu'ils abandonnent une entité ou une juridiction quelconque. Nous l'avions vécu à Ouvira, lorsqu'ils ont libéré la ville, il y a une école dans laquelle ils avaient installé des engins explosifs. Et vous avez vécu avec nous la mort de plus de 10 personnes encore à Sangue, avant qu'ils ne puissent reprendre le contrôle de Sangue, à cause d'un engin explosif qui avait à un certain niveau explosé et a causé la mort de plusieurs victimes innocentes qui étaient dans le marché de Sangue. Alors, le gouverneur de province, pour éviter que ces genres de situations ne puissent encore une fois de plus arriver, a lancé un message fort, un message de prudence. Il a demandé à la population d'éviter tout rapprochement des anciennes positions militaires occupées par les rebelles, ou carrément des dépôts qu'ils avaient abandonnés, ou des quartiers stratégiques qu'ils avaient occupés, ou d'ailleurs des zones de combat qui étaient susceptibles d'être minées ou contaminées par les mêmes engins explosifs. Tout cela, c'est dans le cadre d'attendre que nos équipes techniques qui sont en cours pour aller effectuer des missions de dominage, notamment les CCLAM, qui est désormais opérationnel au niveau du site Kivu, il doit faire en urgence une mission à Sangue pour vérifier tout cela et nous rassurer que, avant les retours de déplacés et des réfugiés qui se trouvent actuellement au Burundi, que les conditions soient réunies pour que les populations retournent paisiblement dans leurs différents ménages.
Merci.
Voilà un peu les éléments qui ont entouré les messages de l'autorité provinciale hier à la télévision nationale et qui a été dupliqué ou répliqué par son adjoint, le vice-gouverneur qui a été dépêché urgemment à Sangue aujourd'hui.
Merci. On vous regarde encore dans cette émission. Henri Pacifique Mayala, coordonnateur Tibangomène sécuritaire du Kivu. Quelle lecture vous faites du retrait de l'ASM 23 de certaines entités de la partie sud du Sud Kivu?
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Guy. Avant peut-être de vous partager ma lecture et bâtir sur ce que venaient de mentionner les deux prédécesseurs que je salue aussi en passant, le docteur De Joseph et Monsieur le ministre chargé de la communication au gouvernement provincial du Sud Kivu, ce qu'il y a à craindre. Il nous a été rapporté au niveau du baromètre sécuritaire du Kivu qu'hier, au village de Nyamutiri, dans le groupement de l'Emera, un jeune Congolais a perdu la vie parce qu'il a été tué par un membre de la mouvance Wazalendo, accusé d'avoir collaboré avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, qui sont en train d'évacuer des plusieurs villages dans la plaine de la Ruzizi, notamment le long de la route nationale numéro 5. Je suis content que les autorités provinciales aient conscience de ce danger.
Oui.
Et je pense que le mieux à faire, c'est de ne pas attendre à réagir, mais plutôt, dans la mesure du possible, essayer d'anticiper afin de prévenir le pire. Et pour une fois, je pense que c'est un appel ici et une opportunité d'apprendre de nos expériences qui, je dirais, bien que ce soit deux formes de gouvernement provincial un peu distinctes, au Nord Kivu et au Sud Kivu, au Nord Kivu avec l'état des sièges, je pense qu'il y a un cas, il y a un précédent. Pareil mouvement que nous avons observé il y a peu dans la partie sud du territoire des Lubero et qui par après encore on a enregistré beaucoup de morts qu'on aurait dû éviter. Et je pense que c'est une opportunité ici pour les deux gouvernements provinciaux de se rapprocher pour un partage d'expérience. Mmh. Avec Lubero, nous avons vu, on a documenté un cas de viol pour lequel le gouvernement provincial a dépêché une configuration de d'un tribunal pour condamner sur place, notamment aussi pour servir de d'exemple et de leçon, mais aussi de rassurer les populations à pouvoir revenir vers l'État pour dénoncer notamment les multiples bavures que la plupart des fois cette dimension Ouazalendo échappe au contrôle de ceux qui sont supposés en prendre charge. Pour revenir sur la lecture que j'ai faite de cette situation, je pense qu'avec un minimum de recul, il est important de regarder ce qui s'est passé dans le sud du Lubero pour effectivement ne pas être surpris et encore occasionner des morts, enregistrer des morts, comme je le disais, des morts que l'on continue à déplorer et dans bien de cas, des morts que on pouvait éviter. Aujourd'hui, la configuration de la province du Sud Kivu, notamment la partie sud, dans le territoire de Uvira, le M23, en se retirant d'Uvira, normalement devait, déjà à l'époque, se retirer jusqu'au niveau de Kamanyola, s'il faut considérer la conversation qui était sur la table à l'époque. Ils ne l'ont pas fait et ils se sont retirés, je pense, jusqu'au niveau de Sangue. Et à l'époque, ou en tout cas jusqu'à assez récent, Sangue représente un avantage stratégique pour le M23 parce qu'à partir de Sangue, vous contrôlez pratiquement tous les hauteurs. C'est-à-dire, facilement, vous pouvez rejoindre l'Emera à partir de Bouguera, de l'Emera, vous pouvez progresser d'une part côté Marungu.
Et Kamanyola n'est pas un point stratégique?
Ça l'est, je vais en arriver là. Et pour moi, je pense que le M23 a eu cet avantage stratégique là jusqu'à ce que Mourambia soit coupé, le territoire, l'agglomération que le FARDC ont récupéré au mois de d'avril lorsque les affrontements se sont intensifiés autour notamment de Minembwe dans la après la reconquête de Mikenge. Ça c'est une chose. Et pour moi, je vois cela comme un repositionnement stratégique du côté du M23 lorsque j'essaie de faire un parallélisme avec ce qui s'est passé dans le Grand Nord, notamment les deux agglomérations importantes que nous avons vues le M23 abandonner dans le Grand Nord, Kipese et Bunyatenge. C'est pratiquement des localités qui, pour eux, constituaient beaucoup plus de charges que d'avantages stratégiques. Ils se sont recentrés sur la route nationale numéro 2, occupant Kaina Kirumba jusqu'à Kayabayonga, centre important, carrefour important, qui aujourd'hui peut se comparer à Kamanyola. Alors, pour moi, je me dis, que représente vraiment ce retrait? Bien sûr que c'est un pas important, c'est un signe positif dans la bonne direction vers la restauration de la paix. Ça constitue aussi un signe de bonne foi, si je peux le dire comme ça, du côté des rebelles. En tout cas, s'il faut leur accorder un crédit, il faudrait le mentionner. Mais dans les faits, pour moi, je pense que si ça continuait à représenter un enjeu pour eux de garder le contrôle, notamment l'approvisionnement à travers les moyens et les hauts plateaux, garder Sangue aurait toujours fait question d'enjeux importants pour eux. Avoir déjà perdu cette connexion avec leurs alliés du Tuwaneo dans les moyens et hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira justifie dans une certaine mesure le manque d'opportunités pour eux de continuer à stationner et contrôler toute la partie entre Sangue et Kamanyola, qui notamment, si l'on gardait, ça ne servait qu'à cela, parvenir à garder le contact avec leurs alliés dans le montagne et nécessairement aussi jouir de facilité d'approvisionnement.
Alors, donc, est-ce qu'on peut envisager un retrait beaucoup plus important que celui-là et un retrait de tous les territoires sur lesquels les rebelles se sont établis par pression diplomatique? Parce qu'on a, on a l'impression que la pression diplomatique est en train de porter des fruits que la pression militaire n'a pas pu, n'est-ce pas, produire.
Je ne suis pas trop sûr. Je ne dirais pas que ça va aller jusqu'au bout de cette logique, parce que, figurez-vous, le président Kagame s'est prononcé à la veille de, à la suite des sanctions qui ont été imposées à l'armée rwandaise en tant qu'entité. Il a dit qu'il ne fallait pas s'entendre à ce qu'il retire ses troupes ou qu'il lève ses mesures de défense. Et les Américains, jusque-là, en tout cas, on n'a pas vu de réaction. À Montreux, en Suisse, la semaine dernière, ça a été un échec. Ça n'avance pas sur le plan diplomatique. Et je ne pense pas que les pressions, dans une logique où nous avons aussi des médiateurs qui, je m'excuse, semblent ne pas vraiment très bien orienter ou agencer l'ordre des priorités sur où commencer et comment adresser quelles questions à quel moment et quel acteur autour de la table, je pense que ça continue de poser problème. Et pendant ce temps, occuper Goma, occuper Bukavu est un objectif atteint pour le M23. Le plus longtemps possible, ils vont contrôler ces deux entités-là. Ça ne représentera pas que du symbolique. C'est aussi beaucoup d'argent qu'ils sont en train de faire. C'est aussi une partie qui est amputée au pays. Et donc, tous les corollaires qui vont suivre avec, ça continue à poser problème. Donc, pour moi, je pense que c'est un bon signe, mais je reste encore très dubitatif quant à me prononcer sur le fait que ça continue et que il rentre. Parce qu'après, de facto, aujourd'hui, ils sont là. Ça fait une année qu'ils contrôlent les deux villes. Ils se sont battus pendant 4 ans pour en arriver là. Il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre et que de se réjouir d'un retrait, surtout qu'on a connu encore un exemple dans un passé si récent.
Alors, le fait que ces rebelles se soient retirés, pas du fait d'une pression militaire, mais plutôt par la pression diplomatique, quelles sont à votre avis les garanties, n'est-ce pas, que ces rebelles ne vont pas tenter de revenir dans ces différentes entités les jours où cette pression diplomatique pourrait baisser?
Ah ben c'est là, c'est la bonne question. C'est la bonne question à laquelle il faut réfléchir. Et je le redis encore, nous l'avons vu avec Lubero. Ils se sont retirés, mais ils sont tellement positionnés de telle sorte que, si je te donne par exemple le cas de Kipese, s'il faut dire en tout cas l'une des agglomérations la plus importante dans cette partie-là, ils se sont retirés d'un côté pour stationner à Kitumbiro, ils se sont retirés de l'autre côté pour être à Lubango, mais ça ne représente que 20 kilomètres. Et malheureusement, toutes ces entités-là, ce n'est pas vraiment les FRDC qui les occupent de façon régalienne. Et ça nous ramène encore sur l'éternelle question des Wazalendo, qui les contrôlent, à quoi ils servent et que ils vont devenir demain. On a vu comment est-ce que ça a été très difficile d'entretenir les relations Wazalendo avec les forces régulières, que ce soit à Uvira, à Bunyakiri ou encore plus au Grand Nord. Et donc aujourd'hui, la question persiste. Ils sont là, à Kamanyola. Est-ce qu'ils continuent de garder un avantage stratégique ou tactique sur les FRDC? La question demeure, parce qu'il faut toutes ces évaluations sur le pourquoi déjà Uvira est tombé comme ça. On ne va pas revenir sur comment Bukavu est tombé. Donc je pense que c'est toutes ces questions-là qu'aujourd'hui il faut bien garder à l'esprit, que même dans la configuration où par exemple le Rwanda s'est retiré, déjà on ne sait pas exactement combien d'éléments rwandais ont été déployés. Les derniers rapports d'experts des Nations Unies, les experts indépendants des Nations Unies, faisaient allusion à 7000 ou autour de 6 à 7000. Aujourd'hui,
est-ce qu'il est aussi facile d'identifier un élément M23 et un élément RDF?
C'est toutes ces questions-là auxquelles il faudra un jour apporter la réponse. Et malheureusement, y compris au niveau de la médiation, on semble ne pas avoir une exactitude sur où est-ce que nous allons.
aussi simple que cela. Combien des RDF devront quitter? Combien devront être brassés ou réinjectés dans la communauté congolaise? Parce qu'aujourd'hui, on spécule, bien sûr, mais certaines sources qui semblent être assez fiables parlent d'autour de 28 à 30 000 hommes.
Et pendant ces éléments RDF.
Les forces du M23 à l'Alliance Force, l'Alliance Fleuve Congo. Et quelque part, lorsque vous réfléchissez, ils sont en train de gérer plus de deux postes frontaliers, pas les moindres en termes de génération de revenus. Ils ont Rubaya qui sont en train d'exploiter et la liste continue. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, pendant ces temps, en dehors du soutien rwandais, cette rébellion pourrait s'être construite sa même agence et il faudrait savoir jusqu'à quel niveau sa capacité de nuisance pourrait aller. Est-ce que la bonne évaluation a été faite du côté gouvernement pour savoir comment est-ce qu'on a perdu Bukavu, on a perdu Uvira et aujourd'hui on ne les a pas repoussés par la force militaire mais par soi-disant force, pression diplomatique, lorsqu'on connaît que les processus engagés, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, le Congo est en discussion avec la rébellion. Les deux premiers protocoles peinent à être mis d'être implantés. On ne sait pas exactement. C'est-à-dire, on attendra la bonne foi des rebelles pour récupérer du terrain, pour combien de temps cela va marcher. Tout ça, ce sont les questions auxquelles je pense il faudrait un cadre adapté, idéal pour ce type de discussion.
Merci. On donne la parole maintenant aux auditeurs. Docteur De José Kakisingi, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa, Beni Masinga.
Masinga Yanga Beni depuis Kinshasa. Je commence par saluer ces retraits qui peut donner crédit aux négociations actuelles entre le gouvernement et l'AFC-M23. C'est un signe fort de l'avancée du processus de paix longtemps voulu. Contrairement à l'administrateur qui qualifie ces retraits de fruits de pression diplomatique, je trouve qu'il constitue un signe fort de volonté de paix prévoulue par les deux parties. J'appelle le gouvernement congolais et le mouvement AFC-M23 d'avancer avec sérieux, volonté et sincérité. Tout Congolais, même citoyens du monde entier, ont besoin de voir le Congo en paix.
Docteur De José Kakisingi.
Oui, je partage la conclusion de l'auditeur, parce qu'en fait, tout ce qu'on a demandé au gouvernement, tout ce qu'on demande aux deux parties, en fait, c'est de mettre l'intérêt du peuple au centre de leurs négociations. S'il se fait qu'ils voient que finalement, le peuple doit être priorisé et que la guerre ne sert à rien, et qu'ils décident de se retirer pour se mettre à table, de discuter, d'aller vers des résolutions, non pour leur propre intérêt, mais pour l'intérêt du peuple congolais et l'intérêt des zones occupé par les Congolais, là, c'est quelque chose de plus important à souligner. Mais si c'est des retraits pour négocier des positionnements encore pour un intérêt personnel, avec possibilité de mettre les populations encore en danger, là, ça sera l'arnaque envers la communauté. Donc, nous encourageons vraiment des discussions profondes, sérieuses. Et je suis tenté de prendre le thème qu'on dit, regarder les causes profondes. Pas comme ceux qui disent causes profondes pour les propres intérêts, mais les causes profondes pour les communautés. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, j'ai vécu dans la cité de Kamituga, qui était une cité minière de la Soudanki. On a vu des jeunes du Rwanda, du Burundi, venir travailler avec des jeunes congolais à Kamituga, et ça faisait l'harmonie dans toute la zone. Et c'était une des solutions. Et donc, on a tellement de minéraux, on a tellement de ressources qui peuvent aider à toute la sous-région d'être stable. Parce que le Sud Kivu peut donner du travail et le Nord Kivu à toute la jeunesse du Grand Lac. Alors, ça ne sert à rien de se battre pour que quelques individus s'approprient toutes les richesses et envoient des jeunes à la mort à travers des groupes armés, à travers des situations qui sont à l'origine des conséquences néfastes qu'on décrit aujourd'hui. On lève les communautés les unes contre les autres. On oppose des principes contre les autres, qui finalement il y a autant de morts inutiles. Alors qu'il y a tellement de richesses que tout le monde peut en jouir et vivre dans la paix et l'harmonie. On l'a vécu déjà dans le passé. Donc on peut espérer que ça peut encore se faire si on arrive à des négociations sincères, seulement pour le bien de la communauté et non pour quelques individus qui veulent se rendre encore plus riches sur le prix de sang, des morts et des désastres dans le village, dans la communauté.
Et quel est l'apport de la société civile, justement, dans la sensibilisation de des différentes communautés, dans la sensibilisation de la société, pour, n'est-ce pas, que les gens apprennent à cohabiter pacifiquement, à s'accepter mutuellement?
Comme vous le savez, dans notre plateforme, nous avons des organisations qui sont impliquées dans les actions humanitaires, dans le développement et dans le peace building, ou donc dans la construction de la paix autour des communautés. Et c'est un travail très important qu'ils font pour préparer les communautés à dépasser les clivages ou à dépasser la, comment on appelle ça, l'instrumentalisation que une ou d'autres parties utilisent pour les diviser davantage, pour pouvoir profiter de cette séparation pour régner, piller, détruire. Et donc, nous travaillons énormément pour rapprocher les communautés, pour amener toutes les communautés à regarder dans la même direction, qui est la direction de la paix et la direction de l'harmonie, qui va finalement permettre à tout le monde d'exploiter aussi bien les sous-sols que les sols, que toutes les richesses naturelles que Dieu a données à cette partie du monde, pour finalement les biens des générations futures, et non pour les utiliser pour nuire les uns aux autres, ou les utiliser pour finalement s'aimer un avenir teinté déjà de sang, merci, par des divisions, par des haines inutiles.
Merci.
Donc, nous travaillons énormément dans ce sens-là, préparer les communautés, les amener à refuser toute sollicitation qui amène à la rupture de paix,
mais
plutôt à s'avancer vers l'harmonie communautaire et vers une paix vraiment durable pour un avenir meilleur.
Merci, monsieur le ministre Didier Kabi. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Mahagi dans l'Ituri, c'est Emmanuel Alipendia.
Emmanuel Alipendia Djaberonga depuis Mahagi en province de l'Ituri. Les retraits de l'AFC-MV3 de certaines localités de la plaine de la Ruzizi au sud Kivu est salué par plus d'une personne. Depuis que les éléments de l'AFC-MV3 se sont retirés de certaines localités du territoire de Walikale au nord Kivu et de la ville d'Ovira et aujourd'hui de certaines localités de la plaine de la Ruzizi au sud Kivu, nous sommes convaincus de la pleine pression des États-Unis d'Amérique, résultat de l'accord de Washington. La préoccupation qui persiste est de savoir si pourquoi les États-Unis d'Amérique demandent à l'AFC-MV3 de se retirer ou de s'éloigner de certaines localités seulement et non exiger un retrait définitif et global de toutes les zones occupées par l'AFC-MV3 et consorts. S'il s'avérerait qu'un chronogramme de retrait serait établi dans divers accords signés par l'AFC-MV3 et la partie gouvernementale, y compris les Rwanda, pourquoi tarderait-il longtemps pour son application? Merci beaucoup, la radio de la paix.
Merci, monsieur le ministre Didier Kabi.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la préoccupation renouvelée. L'auditeur de Mahagi salit le retrait des rebelles de l'AFC-MV3 soutenus par les Rwandais à la plaine de la Ruzizi, estimant qu'il y a une certaine bonne foi de leur part. Je voudrais apporter une précision par rapport à ce qui se passe au sud de vous. Pendant qu'un certain apprécie ou salue les retraits des rebelles de l'AFC-MV3 dans la plaine, certaines personnes ne sont pas informées de la stratégie mise en place par le même rebelle.
Quelle est cette stratégie-là?
Le mécanisme de cesser le feu, c'est là où je vais en arriver.
Allez-y.
Je voudrais informer les auditeurs de la radio Capi qui nous suivent à ce même moment que pendant que le même rebelle annonce le retrait progressif dans la plaine de la Ruzizi, d'intenses combats sont vécus dans la partie Mwenga-Walungu. Si vous voyez l'axe Walungu-Mwenga, les rebelles de l'AFC-MV3 auraient divisé sur les sites miniers se trouvant à Namoya et à Kamitunga. Nous avons Kamitunga et Namoya Mining qui aujourd'hui dont les titres actuels sont détenus par des sociétés qui sont sous contrôle du gouvernement congolais. Nous avons une autre lecture de ces retraits. Comme l'a dit les collibataires du baromètre, il y a lieu de nous poser plusieurs questions. Est-ce que ces retraits ne risquent-ils pas de se justifier par le renforcement des éléments se trouvant sur l'axe Walung-Menga avec des visées sur les sites miniers de Kamituga, après avoir constaté que dans la plaine de la Ruzizi, où ils ont occupé pendant des mois, les efforts sont vains et ne font pas entrer suffisamment de moyens conséquents pour continuer de soutenir la rébellion. Nous avons intérêt à nous poser toutes ces questions.
Et à ces questions, quelles sont les réponses que vous proposez à ces questions-là? Et aussi, monsieur le ministre, ces rebelles se sont retirés, n'est-ce pas, de ces entités, hein. Mais quels sont les mécanismes qui sont mis en place, n'est-ce pas, pour parer à toute éventualité? Parce que tout est possible, ces rebelles pourraient aussi un jour revenir.
Je vais revenir sur cette question
parce qu'on a parlé au départ.
Je vais revenir sur ça.
Ouais.
Merci. Donc, je disais que, de notre analyse, nous avons constaté que les rebelles se retirent des sites moins importants quant à ce qui concerne la fourniture de moyens nécessaires pour soutenir la rébellion, afin de se concentrer sur des endroits où ils estiment pouvoir percevoir autant de moyens devant leur permettre de continuer à violer le cessez-le-feu. Nous, de notre côté, on se disait par exemple que si ces rebelles manifestaient la bonne foi de pouvoir respecter tout ce que nous avions déjà eu comme engagement tant à Doha comme à Washington et aujourd'hui à Genève, je pense qu'ils devraient beaucoup plus manifester cette bonne foi en libérant les zones qui jadis servaient de poumons économiques, non seulement pour les populations qui aujourd'hui sont déplacées, mais également réfugiées, mais également pour ceux qui se trouvent aujourd'hui dans la ville de Bukavu. Et donc, pour nous, ces retraits, en tant que gouvernement provincial aussi, qui vivons au quotidien ce qui se passe là-bas, nous émettons une réserve.
Merci.
De
Merci.
La bonne foi
des rebelles,
telle que proposée par ou telle que faite par d'autres analystes.
Merci.
Tout en partageant certaines décisions qui sont en cours de décision au niveau du gouvernement pour voir dans quelle mesure nous pouvons le plus rapidement possible rétablir l'autorité de l'État
Merci.
Sur les espaces qui ont été libérés.
Merci. Henri Pacifique Mayala, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la Tchopo, c'est Jacques Befonga.
Je m'appelle Jacques Befonga Malumalu depuis Kisangani, province de la Tchopo. Les retraits de l'FCM23 paraît encore flou et ne donne pas une assurance totale à la population. Les FRDC se redéploient progressivement, mais il y a lieu de se demander si ces retraits se font réellement sous la surveillance des mécanismes de négociation et des médiateurs engagés dans les processus de paix. Les déclarations de ces deux parties créent davantage de confusion. Le gouvernement parle des pressions diplomatiques exercées sur les rebelles, tandis que la FCM23 affirme agir par volonté et respecter les engagements pris pour la paix. Cette contradiction entretient les doutes dans l'opinion publique et pousse la population à rester prudente face à cette situation. Si réellement ces retraits sont sérieux et conformes aux accords, les médiateurs ainsi que les observateurs régionaux et internationaux devraient clarifier officiellement la situation pour assurer la population. Car sans une communication claire, le peuple congolais ne peut pas accorder une confiance totale à un retrait qui reste jusqu'à présent non clarifié.
Henri Patrick Maela.
Je pense que je suis parfaitement d'accord avec notre compatriote Jacques de Kisangani. Il y a pas mal de choses à clarifier. Et je pense que cela revient encore une fois à la responsabilité du gouvernement congolais de dire au peuple congolais ce qui se passe et de bien le dire. Je reviens sur la thématique de l'autre fois ici. On a vu l'ancien président Joseph Kabila être sanctionné. Les sanctions en soi constituent un paquet
parmi tant de solutions que l'on a vu déjà même fonctionner dans le cadre de ce même conflit. Parce qu'ici, on parle de la résurgence du M23, mais si on va un peu plus loin, 2012, nous avons eu un cas similaire et nous avons eu des sanctions à agir différemment de tout ce que l'on est en train de voir aujourd'hui. Ça fait une année et plus depuis que Bukavu et Goma, 4 ans depuis que la résurgence a commencé autour des Sabino. Dans une certaine mesure, vous acceptez et accueillez avec réjouissance les sanctions contre le président Joseph Kabila, mais vous n'expliquez pas exactement comment est-ce que cela contribue à ce que la paix revienne. Les Congolais se posent des questions. Les déplacés de guerre comme moi-même sont laissés à leur propre sort, parce que jusque-là, il n'y a pas une visibilité claire de comment est-ce que telle sanction va ramener la paix, de comment est-ce que le retrait sur un axe qui, et je suis d'accord avec le ministre provincial, ne représente pas en tout cas une justification qui rassure. Alors, si le gouvernement qui est en face sur la table des discussions dans le cadre de Doha avec les rebelles, lui-même émet des réserves sur la prétendue bonne foi de l'autre partie, alors les populations qui malheureusement continuent d'en payer les lourds tributs, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Alors justement, parce que nous sommes à la fin de l'émission, en conclusion, que faut-il pour régler une fois pour toutes et de manière durable, n'est-ce pas, cette crise dans la partie est du pays?
Alors deux choses. Premièrement, je pense que le Congo est en train d'offrir beaucoup aux États-Unis que ce que le Congo est en train actuellement de recevoir de l'administration américaine. Si on juge bon de construire la stratégie du pays autour des sanctions, alors il faut encore renforcer davantage sa position face à son partenaire américain. Nous avons eu cette situation en 2012. Il y a eu un paquet de sanctions bien construites qui ont eu des effets. Ça, c'est la première chose. Deux, si il faut continuer sur la logique de régler ce problème par des moyens pacifiques, c'est une logique à pousser jusqu'à la fin. Et pour moi, Doha ne représente pas un meilleur format pour la résolution une fois pour toutes de cette crise. Parce qu'il ne s'agit pas ici que du M23.
Et le meilleur format serait représenté par quoi? Par
je reviens dessus. Il ne s'agit pas que du M23 parce qu'on réglera le M23 et l'Ituri va nous exploser en face. Mmh. Le meilleur format ici où il faut discuter de toute cette question, passez-moi le terme qu'a employé le co-débatteur sur les causes profondes, c'est de ramener la conversation autour d'une table qui intègre tout le Congolais. Il faut que les Congolais se parlent.
Et donc,
il faut
un dialogue à la proposition
national inclusif. Un premier format a été proposé par les évêques. Le président de la République a accompagné dans une certaine mesure ce format-là. À Doha, il y a des questions que juste le gouvernement congolais et le M23 ne peuvent pas décider pour nous tous.
Merci.
Il faudrait recorriger, repenser cette stratégie. Et dans les deux cas, il y a de l'espoir, mais seulement il faut recadrer et réenvisager les choses dans une certaine mesure qui apporte beaucoup plus d'espoir au retour de la paix.
Merci, docteur De José Kakisingi. Votre mot de la fin?
Il est possible de construire la paix au Congo si on met l'intérêt du Congo, des Congolais au devant de tout, et si on met la souveraineté du Congo comme l'intérêt ultime.
Merci.
Si
merci.
On a ça en tête, on saura qu'il faut travailler d'abord pour le pays, avant de travailler pour soi-même et avoir des alliances au détriment du pays.
Merci, monsieur le ministre Didier Kabi. Votre conclusion?
Je voudrais dire en conclusion que le gouvernement provincial du Sud-Kivu remercie sincèrement le président de la République, chef de l'État, pour avoir à nouveau apporté une réponse à ce qu'il nous a dit la dernière fois. Que bientôt, Sangue Kamagnola va à nouveau être sous contrôle du gouvernement congolais. Nous, en tant que Sud-Kivu,
en tant que gouvernement provincial, nous avons rassuré notre population que les dispositions sécuritaires sont actuellement en cours pour stabiliser toutes les zones qui ont été libérées. Nous sommes à pied d'œuvre pour renforcer l'autorité de l'État et accompagner le retour progressif de la vie normale dans le respect des droits humains et de l'unité nationale au niveau de la province du Sud.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Monsieur le ministre Didier Kabi, docteur de José Kakisingi et monsieur Henri Pacifique Mayala. Merci également à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission et aussi merci à Benjamin Moudoumbi qui l'a réalisé, à Diédouni Nyangasa et Alain Ngoï qui était à la technique et Chembe Eloku qui a assuré les lives de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.